de la joie, n'est-ce pas, d'être ensemble et de se réjouir ensemble et de réaliser que nous sommes membres d'un même corps. Quand un des membres se réjouit, tous les autres se réjouissent avec lui. Et nous avons pu aussi nous réjouir avec notre sœur, Madame Guéra, que le Seigneur nous a conservée et qui nous donne aussi de la joie dans cette communion fraternelle. Nous sommes donc arrivés en ce mardi après-midi du 4 octobre 1986 à ce deuxième exposé sur notre grand thème « Vivre de la vie d'un autre » en nous souvenant encore une fois du texte de ce jour qu'il nous a donné pour nous tous. Parce que moi, je vis, vous aussi, vous vivrez. Et cette promesse qu'il a faite à ses disciples, vous me verrez. Le monde ne me verra pas, mais vous, vous me verrez. Et c'est encore vrai aujourd'hui, qu'il est possible aux croyants de voir Jésus. Pas par la vue physique, c'est pas ça que nous recherchons, mais par ce sixième sens qui nous est donné. Quand nous croyons la parole de Dieu, nous le voyons par la foi. Et je voudrais encore vous citer, pour introduire cette heure, un texte qui m'a beaucoup parlé quand j'étais à Jérusalem il y a 4 ans et que je prêchais parmi les Juifs au sujet d'Abraham, l'homme éprouvé, l'homme qui fut justifié justement par sa foi, parce qu'il crut Dieu, mais justement parce qu'il croyait Dieu, il a été éprouvé de la façon la plus extraordinaire et la plus incompréhensible, puisqu'ayant cru en ce Dieu de l'impossible, une fois que ce qui était impossible est arrivé, qu'il a eu Isaac, qu'est-ce que ce Dieu lui a demandé? Il a demandé Isaac. Bon. C'est en perdre la foi. Si on peut la perdre. Il lui demande Isaac. Et voilà. Cet homme, qui au lieu de discuter, obéit. Et part avec son fils, qui sait très bien ce que c'est qu'un holocauste. Qui s'étonne simplement qu'on parte avec un âne, avec du bois, avec le feu, avec le couteau, mais qu'on ne prenne pas l'agneau. C'était lui qui devait être l'agneau. Alors il pose à un moment donné la question à son père. Alors vous voyez, il y a des choses qui sont tout à fait renversantes quand on vit avec Dieu. On voudrait tellement entendre sa voix. Mais qu'est-ce qu'il pourrait nous demander ici s'il nous faisait entendre sa voix? Abraham, Abraham, André, André, Jacques, Pierre, c'est aussi nos sœurs. Il connaît aussi vos noms. Suzanne, Françoise, Lydie, que sais-je encore? Eh bien, ce texte qui m'a tellement parlé, que je lisais, quitte à ce que nos chers frères dans le judaïsme trouvent que j'étais sénile, je n'ai pas commencé une seule de mes réunions sans relire le même texte pendant une semaine. Maintenant, ils le savent par cœur. Parce que si je vous demande d'apprendre quelque chose par cœur, je ne suis pas sûr que vous allez le faire. Mais si je vous le lis pendant une semaine, si vous n'êtes pas tout à fait idiot, vous l'aurez retenu. Chapitre 11 des Romains, verset 33. Aux profondeurs de la richesse et de la sagesse et de la science
de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Et cette fameuse parole qui est capitale pour nous tous, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Dieu prend la responsabilité de tout. Adorons. Il n'y a pas d'autre attitude. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Et dans ce tout, rien ne manque de tout ce qui pourrait nous arriver. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Eh bien, chers amis, l'étude de ce matin, elle nous a conduit à considérer trois choses, si nous nous sommes arrêtés à ces trois questions. D'abord, nous avons cherché à nous souvenir quel était le conseil ou le dessein éternel de Dieu dans la création de l'homme. Et nous avons découvert qu'avant la fondation du monde, Dieu avait un plan, avait un dessein au sujet de cette créature qu'il prédestinait à être semblable à l'image de son Fils. Qu'il prédestinait à être semblable à lui, à partager un jour sa gloire. C'était là son dessein éternel. Donc, quand l'homme a été créé, il a été créé dans un acte d'amour infini, d'amour absolu. L'homme devait être un être à l'image de Dieu. Et qui avait la possibilité de participer à la nature divine. Il n'était encore qu'une créature. Mais en tant que créature au sommet de tous les êtres, il pouvait se nourrir de l'arbre de vie et participer à la vie divine. L'arbre de vie étant le symbole de la vie de Dieu qui est manifestée dans son Fils, qui est vraiment l'arbre de vie. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était l'autre chemin où l'homme pouvait s'engager, mais Dieu lui avait bien dit ce qui lui arriverait. Si tu prends ce chemin-là, tu mourras certainement. Et c'est justement, hélas, ce chemin que l'homme a pris, séduit par Satan, écoutant la voix de sa femme qui s'est laissée, elle d'abord, séduire et puis qui a entraîné son mari dans sa désobéissance. Alors qu'elle avait été créée, elle aussi, pour être, non pas un piège pour l'homme, mais une aide qui lui correspond. Elle n'a pas été une aide, hélas. Mais la responsabilité, c'était sur Adam. L'homme aurait pu dire non à qui? À sa femme. Il n'avait pas besoin de faire exactement ce qu'elle faisait. Mais enfin, ils ont été associés dans la chute. Et les conséquences de cette chute sont aussi bien pour l'homme que pour la femme que pour l'homme. Et pourtant, Dieu les avait appelés à dominer et à assujettir la terre, à se rendre maître de tout. Ils devaient être en quelque sorte, puisqu'il est dit que toute la terre est à moi, hein, toute la terre est à l'Éternel, toute la création était à l'Éternel, il était le vice-roi. Mais qui était l'auteur de toutes choses? C'était Dieu. On ne peut pas prendre la place de Dieu. Et c'était seulement dans cette dépendance de Dieu que l'homme pouvait réaliser sa vocation et parvenir à la gloire. Or, Satan leur a dit, mais vous n'avez pas besoin de passer par Dieu, vous n'avez qu'à prendre ce chemin-là, vous serez comme Dieu. Hein? Le but, c'est toujours le même. Mais par un autre chemin, par ta propre force, tu peux y arriver toi-même. Tu n'as pas besoin de Dieu. Parce que Dieu sait très bien que si vous en mangez, vous serez comme lui. Et Satan, qui est le menteur, le père du mensonge, le meurtrier, ce qu'il voulait, c'était la place de l'homme. C'était que lui voulait régner sur ce monde. C'est lui qui voulait être le prince de ce monde. Et faire de l'homme son sujet, faire de l'homme son esclave. Et c'est bien ce qui est arrivé par la chute. L'homme n'est plus qu'un esclave. Et vous l'entendez constamment aujourd'hui. On ne dit pas qu'ils sont esclaves. Non, mais ils font des syndicats, tout ce que vous voulez, pour se défendre, parce qu'ils sont opprimés, ils sont oppressés, là, comme des esclaves. Et au fond, Satan a changé tout ce que Dieu voulait dans ce monde pour le bien de l'homme, et il a rendu l'homme esclave en lui faisant croire qu'il était libre. La plupart du temps, ce que vous entendez, c'est « on ne peut pas faire autrement, tout le monde le fait ». Ça, c'est le langage des esclaves. Tout le monde le fait. On ne peut pas faire autrement. Donc, vous n'êtes pas libre. Et c'est pourquoi il faut recevoir cette liberté dans. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et nous avons pris un second point. Nous avons vu donc la réponse de l'homme. C'était la désobéissance à Dieu. C'était le péché, la souffrance. Et nous avons vu qu'il n'y avait point de juste. Pas même un seul. Et que les exceptions qui ont été mentionnées, j'en ai parlé tout à l'heure parce que la question a été posée, mais Enoch, par exemple, oui, il est là comme exception, mais non pas parce qu'il n'a pas passé par la mort, mais pas parce qu'il n'était pas pécheur. Mais il était pécheur comme tous les autres. Mais il est dit que à l'âge de 65 ans, eh bien, sa vie a changé et il s'est mis à marcher avec Dieu encore combien d'années? 300 ans. De sorte que ça fait 365 ans. Comme on a une année de 365 jours. Puis tout à coup, il ne fut plus trouvé sans qu'il ait passé par la mort. Il est là l'exemple des exceptions qui vont venir. Il y a aussi Élie, je l'ai dit déjà, lui aussi n'a pas passé par la mort, mais pas parce qu'il n'était pas pécheur. Il était un homme aux mêmes passions que nous, ça est dit clairement dans l'Écriture. Mais Dieu a fait aussi cette exception pour nous montrer qu'il est au-dessus de la mort. Et il y aura une génération, celle qui sera vivante au retour du Seigneur, parce qu'il y aura une génération vivante. De sorte que ce n'est pas bientôt la fin du monde, mais c'est bientôt la fin d'un âge, et ce qui va se produire dans ce monde, c'est la disparition de ceux qui sont authentiquement des croyants, membres du corps du Christ. Ils vont disparaître. Ça donnera du travail pour les autres. Mais je ne souhaite à personne de rester pour travailler dans ce temps-là. Car alors, quand l'Église, c'est-à-dire tous les vrais rachetés, à quelque dénomination qu'ils appartiennent, au catholicisme, au protestantisme, à quelque isme qu'ils appartiennent, qu'ils se réclament, s'ils ont vraiment la vie du Seigneur, ils disparaîtront. Ça fera de la place dans les églises. Il y en a déjà pas mal de ça. Il y a déjà certaines églises, justement, qui se demandent ce qu'elles doivent faire parce que quand l'hiver vient, elles sont trop grandes à cause du chauffage. Mais mes amis, nous revenons à notre sujet. Il n'y a point juste pas même un seul. Et je pense que vous avez lu, vous avez bien le tableau du chapitre 3 de l'Épître aux Romains. Je pense que vous l'avez lu. C'est là que quand j'avais 13 ans et demi, j'ai vu mon portrait et que j'ai dû dire, c'est vrai. Tous sont sous l'empire du péché, verset 10 du chapitre 3. Il n'y a point juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Je me suis demandé qu'est-ce que c'est que l'intelligence. J'ai remarqué, non, c'est pas intelligence, je suis ce que je fais. Nul ne cherche Dieu. C'est pas pour Dieu qu'on vit. Tous se sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, il n'en a pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Vous savez qu'on peut tuer avec la langue? Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, que de gens qui se plaignent tout le temps, n'ont qu'une louange dans leur bouche. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Celui qui n'aime pas, c'est un meurtrier. La destruction et le malheur sont sur leur route. C'est ce que nous voyons tous les jours. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, malgré l'ONU. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Vous ne voyez pas ces représentants de toutes les nations dites unies s'agenouiller avant une conférence pour demander à Dieu la direction pour conduire le monde. Ça, vous ne le voyez pas. Hein? Donc, Dieu n'est pas recherché. Et puis, il est ajouté, or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Alors, cela nous amenait à ce troisième point. Alors, la loi. Alors, je vous ai un peu raconté les diverses dispensations qu'il y a eu depuis Adam, chassé du paradis, et il y a eu un temps sans loi, mais le monde sans loi est tombé dans l'anarchie la plus complète, et Dieu y a mis fin, par quoi? Par le déluge. Mais Noé a été sauvé des eaux et a sauvé sa famille. Mais pour bien montrer que même des gens qui ont fait des expériences extraordinaires, au fond leurs descendants sont toujours les descendants d'Adam, incurables, retournent à ces commencements-là, à ces désobéissances. Il n'y avait pas de loi dictée sur des tables de pierre, comme on l'a eu au temps de Moïse, mais il y avait pourtant des lois naturelles. Alors, pendant tout ce temps, depuis la chute jusqu'au déluge, il y avait la loi naturelle. Et qu'est-ce que l'homme avait aussi? Une conscience. Les païens ont aussi une conscience. Tout le monde avait une conscience. Mais ça n'a pas empêché les gens de vivre dans le mensonge, dans l'injustice, et dans la corruption la plus totale, au temps du déluge. Et ils ont violé les lois naturelles. Et quand on viole les lois naturelles, eh bien, on en a aussi les conséquences. Si vous, vous violez les lois naturelles, ne vous plaignez pas de votre cancer, de vos rhumatismes, ou de je ne sais trop quoi encore, parce qu'il y a une manière de vivre, une manière de se nourrir, une manière de se comporter qui vous détruit. Et si nous observions davantage aussi certaines lois naturelles, nous éviterions bien des dommages. Parce que Dieu vous a quand même donné une intelligence. De sorte qu'il est dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 2 que même les païens sont inexcusables devant Dieu parce qu'ils avaient la loi naturelle. Ce qui peut se connaître de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se révèle au monde, aux hommes, par les choses que Dieu a créées. quand vous observez les choses, quand vous voyez comment les animaux vous enseignent. On a fait une fois hein, un camp Mahanaïm sur justement, c'était le titre, interroge les bêtes. Attention, je n'ai pas dit interroge les pasteurs, hein. Interroge les curés, interroge les théologues, interroge les bêtes. Et elles t'instruiront. Et on ne s'était pas ennuyé dans ce camp-là, hein, par la grâce de Dieu. Et vous pourriez reprendre tout cela. Puis on pourrait aussi interroger la vie végétale même. Il y a des choses merveilleuses. Moi, je suis en train de contempler presque tous les jours quand je suis à la maison une certaine plante verte. Je regarde ses progrès. Ma femme prétend que je prie pour elle. Non, mais... Ça, c'est mon secret. Je crois que c'est mieux ce qu'elle fait, elle arrose. Mais encore, quand on arrose, il ne faut pas trop en mettre. Hein. Ça dépend. La plante. Mais tout ce qui est dans la nature est fait pour nous instruire. Il faut encore avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Mais bientôt, les gens seront tous sourds, c'est notre jeunesse, parce qu'ils ont toujours quelque chose dans les oreilles. À peine qu'ils sortent d'un lieu, tiens, j'étais chez le dentiste hier, j'ai vu un homme qui sortait de chez le dentiste, la première chose qu'il a fait, il a sorti son truc, il a mis ça dans ses oreilles, puis il est parti. Ben, évidemment que c'est mieux que le son de la fraise, mais quand même, il entendait autre chose. Mais on ne peut plus rien entendre. Comment voulez-vous entendre la voix de Dieu quand vous avez ces trucs dans les oreilles? Et bien souvent, tout ce bruit, cette musique rock, cette musique qui vous assourdit, c'est quelque chose de terrible. Vous transgressez les lois naturelles. Ne vous plaignez pas de votre sourdité. Qui vient? Et si vous avez des enfants, essayez au moins de leur faire comprendre cela. Parce qu'un jour, ils vous le reprocheront. Mais tu étais mon père, tu étais ma mère, pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Moi, je ne savais pas. Tout le monde faisait cela. Ce n'est pas parce que tout le monde fait cela que nous devons faire la même chose. Nous ne sommes pas, comme je le dis souvent, sur la planète des singes. Les singes, ben, ils imitent, hein, ils font les mêmes grimaces. Mais nous, on commence à faire les mêmes grimaces que le monde. Juste dans les églises. Oui, il y a les mêmes symptômes dans les églises. On grimace comme le monde. Il y a même un clown qui vient dans les réunions d'évangélisation. C'est soi-disant pour amuser les petits. Comme si le Seigneur n'était pas assez grand pour captiver leur attention. Moi, ça me brise des choses comme ça. Parce que j'aime l'église. Et quand je dis l'Église, je dis tous les milieux. Mais quand je vois certaines choses qu'on introduit maintenant, soi-disant parce qu'il faut attirer les gens, il faut que le monde s'amuse. Puis alors, il n'y a plus de différence. Et Dieu voit tout cela. Comme il voyait les gens au déluge, comme il voyait les gens à la tour de Babel. Il descend pour regarder vraiment si c'est ainsi. Alors Dieu avait donné la loi, mais pourquoi? Après avoir appelé Abraham pour le sortir justement de ce paganisme qui était quoi? La déification des lois naturelles. Quand il n'y avait que la loi naturelle, qu'est-ce qu'on a fait? On a déifié les forces de la nature. Ces forces de la nature, elles étaient de Dieu, mais elles n'étaient pas Dieu. Mais on a adoré les forces de la nature. Et c'est ça le paganisme. Alors on a même fait un veau, ou un bœuf, un taureau, qui se prosternait devant lui. C'était la fécondité. Vous rendez compte? Adorer les forces de la nature, le paganisme. Mais Dieu révèle qu'il est au-dessus des forces de la nature, que c'est lui qu'elle met. Il le révèle à un homme qui est Abraham. Puis on a vu cette histoire d'Abraham et comment ce peuple qui a dû passer dans la fournaise d'Égypte a été libéré, délivré. D'une façon merveilleuse. C'est pas le peuple qui s'est délivré. C'est Dieu qui a délivré le peuple. C'est Dieu qui prend en main le salut d'un peuple.
qu'il lui dit après, une fois qu'il l'a conduit dans le désert. Mais est-ce qu'on conduit Dieu dans le désert? Une juive m'a dit un jour, c'était une de nos guides juives là-bas, mais vous savez, hein, Dieu s'est complètement trompé. Faire sortir notre peuple du pays d'Égypte, il avait qu'à le conduire en Suisse.
En Suisse.
Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas conduit en Suisse? Oui, parce que vous connaissez le sous-sol suisse, hein? C'est de l'or. C'est les banques, hein? Le sous-sol suisse. C'est là que vont les capitaux se réfugier. Alors, en bonne juive, elle s'est dit au régus, n'est-ce pas, conduire le peuple d'Israël en Suisse. Il le conduit dans le désert, du pays de Canaan. Mais justement, Dieu vous met dans une situation pour se montrer grand, puissant, pour vous montrer ce qu'il peut faire dans un désert. Vous nourrir pendant 40 ans. Ce n'était pas 40 ans qu'il voulait. Ce n'était pas ça son dessein. En combien de jours est-ce qu'ils auraient pu faire ce trajet? 11 jours. Ils ont mis 40 ans, mais toujours pour quelle raison? Il n'y en a qu'une, leur incrédulité. Et quand 40 ans après, avoir eu peur des murailles de Jéricho, des fils d'Anak, ces gérants qui étaient là dans le pays de Canaan, quand 40 ans plus tard, ils ont dû combattre, est-ce que les murailles étaient moins fortes? C'était toujours les mêmes murailles. Est-ce que les géants étaient plus petits? C'était toujours les mêmes géants. Le retard n'a rien changé. C'est aujourd'hui le jour du Saint-Esprit. Le mot du Saint-Esprit, c'est aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas. Vos cœurs ne disent pas, oh, il faut attendre encore quelques années. C'est maintenant que Dieu opère et qu'il est puissant pour renverser les forteresses, les murailles, tout ce qui vous empêche de vivre pleinement, de vous épanouir et de réaliser qu'un jour danser par vie vaut mieux que mille ailleurs. Une seule journée avec le Seigneur qui peut vous redonner des années de perte, parce que souvent on a perdu des années, hein. Eh bien, le Seigneur dit, je vous redonnerai les années que vous avez perdues. C'est un verset merveilleux que j'aime beaucoup dans un petit prophète. Il faut les lire aussi, les petits prophètes. Joël 2, verset 25. Je vous redonnerai les années que les sauterelles, les liettes, la locuste, tout ça, tout ce qu'ils ont mangé, je vous redonnerai ces années. Ça vous donne de l'espoir, hein, malgré toutes les bêtises que nous avons pu faire. Mais il faut les reconnaître. Il faut changer de chemin. Alors nous avons vu que la loi qui a été donnée, ben, Dieu ne voulait pas donner cette loi d'abord, mais puisque l'homme réclamait une loi et avait la prétention de pouvoir faire le bien, bien Dieu lui a donné la loi. Mais cette loi, nous avons vu, ce n'était pas pour l'amener à la gloire, c'était pour l'amener à la faillite. Pour qu'il apprenne enfin, et ça c'était le 7 des Romains que vous avez lu, hein, qui vous montre que l'homme, même quand il a une conscience réveillée et qu'il est attentif aux choses que Dieu a dites, il réalise qu'il y a en lui une force, une puissance qui, au fond, le rend captif de la loi du péché et de la mort. De sorte qu'il arrive à s'écrier, mais comment est-ce que je peux m'en sortir? Les religions vous disent, mais c'est encore des bonnes œuvres. Prenez de nouvelles décisions. Ne vous découragez pas. Voyez-vous, il n'y a que deux religions. Il y a celle de la foi qui croit Dieu, puis il y a celle des œuvres. Mais toutes les, vous avez 36 religions, mais il n'y a que deux principes. Ou bien vous pensez que vous vous sauvez par vos efforts, que ce soit méditation transcendantale ou autre, tout ce que vous voulez mettre, ou bien, alors, vous reconnaissez que Dieu a raison, puis vous battez devant lui. Dieu est Dieu, et devant Dieu, on se prosterne. On n'essaye pas de discuter avec lui. Dieu est Dieu, J'adore. Pas n'importe quoi. J'adore. C'est seul Dieu. Et vous gardez ce mot adorer, pas pour autre chose. On adore que Dieu. C'est incompréhensible. Ces voix ne sont pas mes voix. Mais je te fais confiance. Tu es Dieu. Parce que si moi je pouvais expliquer Dieu, qu'est-ce que je ferais? Je serais Dieu moi-même. Et Dieu ne se laisse pas disséquer dans un cabinet d'études. Par des grands savants. C'est pourquoi dans le dernier camp que nous avons eu, et qui préparait notre étude sur le livre du Cantique des Cantiques, nous avons essayé de faire entendre un témoignage chaque matin d'un homme de Dieu. Vous vous souvenez, quelques-uns? Chaque matin, on a questionné. Au lieu de vous donner des définitions sur Dieu, puisque notre thème était « Qui est Dieu ?», on a essayé d'écouter ce que des hommes qui avaient connu Dieu ont dit de lui. Parce que même s'ils sont morts, ils parlent encore. J'avais écrit une lettre à mes enfants, elle est allée en Suisse, chez quelques-uns de nos amis qui font quand même comme partie un peu de notre famille. Alors, avant-hier, j'ai reçu une lettre d'un ami qui me dit « Tu parles justement qu'au début de chaque journée, tu as fait parler un homme de Dieu plutôt que de donner des explications, parce que ces hommes de Dieu, cet homme de Dieu, tu dis que quoique mort, il parle encore. Est-ce que ça te dérangerait de me donner son nom? » Vous voyez, il pense toujours que j'ai dû parler d'une célébrité mondiale, n'est-ce pas, qui est venue nous parler chaque matin. Mais ces célébrités, elles étaient là, dans le livre. On a entendu Enoch, on a entendu Abraham, on a entendu... Parce qu'on peut... leurs témoignages sont là, qui nous parlent, et on les a écoutés. Ce qui veut dire que Abel, justement, quoique mort, il parle encore, oui. Et c'est ça que nous avons entendu. Et nous ont dit ce que Dieu était pour eux. Autrefois, dans leur vie, parce qu'ils ont vécu comme nous, ils ont eu des difficultés comme nous, ils ont eu des peines comme nous, et se sont trouvés face à des murs. Et pourtant, Dieu a été pour eux, ce que nous avons dit pour Mme Guérard, un soleil et un bouclier. Et ils nous ont témoigné pendant 15 jours, là, 15 hommes de Dieu. Alors, j'ai pas encore répondu à mon ami, pour lui dire, tu vas les retrouver dans la parole. Tu n'as pas besoin d'écrire en Amérique ou en Russie pour les trouver. Ils sont là aussi en Suisse. Dans votre Bible. Dans ce pays convoité par la femme juive. Alors, nous avons bien compris que la loi ne nous amenait pas à la perfection, mais qu'elle nous convainquait du péché, qu'elle nous convainquait de notre impuissance, et alors on est arrivé à ce « Qui me délivrera ?» Et nous entrons maintenant dans votre étude d'aujourd'hui. Vous devez vous dire, il est toujours le même, il revient toujours en arrière, et puis ça allonge. Je ne fais pas ça pour allonger. Je fais ça pour que vous puissiez suivre. Parce que je sais très bien comment on est. On a besoin de réentendre certaines vérités pour mieux les comprendre. C'était la méthode de Jésus. Alors, je ne peux pas avoir une meilleure méthode, je pense pas. C'était la méthode de l'apôtre Paul qui disait, vous redire les mêmes choses, cela n'est pas pénible, c'est votre sûreté. Parce que c'est à force d'entendre certaines choses que tout à coup, ça jaillit, ça devient clair. Parce que justement, peut-être que ce matin, il faisait trop chaud, puis vous aviez l'intention de taper des clous. Je sais pas. Vous aviez des moments où peut-être vous alliez vous endormir, ou bien c'est le prédicateur qui ne savait pas vous tenir en éveil. Puis la chaise qui craquait. Bon, alors ça vous réveillait. Qu'une chaise craque, ça réveille. Mais sans ça, vous devez faire un effort de concentration, parce que vous voulez quand même suivre. Mais n'ayez aucune crainte, on ne lisait pas le livre de Jonas. elle n'allait pas m'écrier « Que fais-tu là, dormeur ?» Il y avait justement un qui dormait, quand on a prêché là-dessus. Il s'est réveillé, donc il a dit « Quoi ?» Comme les corbeaux. Quoi ? Il dormait. On le visait pas, on ne voyait pas même qu'il dormait. Mais lui, il a entendu la parole, que fais-tu là, dormeur ? C'est drôle, hein ? Vous savez, Dieu a beaucoup d'humour. Pour réveiller la conscience de Pierre, comme je l'ai dit souvent, il a employé un coq. Tout à coup, le coq a chanté. Pierre est revenu à lui. Tous les fois, de ces êtres de basse cour, pour nous réveiller dans notre conscience endormie. Qui me délivrera ? Alors, vous avez étudié votre texte, vos questions. Qui est cet autre qui vient dans ce monde pour nous donner cette vie à laquelle Dieu nous prédestinait selon le dessein éternel de Dieu ? Eh bien, mes amis, vous avez, je pense, lu les versets que je vous indiquais, quoique vous pouviez en lire d'autres aussi, mais on peut dire une chose. Au début de l'ère chrétienne, il s'est donc trouvé un homme qui, sur la terre, a vu soudainement le ciel s'ouvrir sur lui, alors que lui était en prière sur les bords d'un fleuve que nous connaissons bien, qui s'appelle le Jourdain, et au bord duquel vous pouvez vous-même vous dire. C'est un fait historique. Et c'est à cause de cet homme que nous sommes dans l'ère dite chrétienne. Aujourd'hui, quand vous mettez 1986, vous reconnaissez l'existence historique de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'on est en 1986 ? Même l'athée confesse la chose quand il signe son courrier et qu'il le date. Il reconnaît que nous sommes dans l'ère chrétienne. Eh bien, il y a eu un jour où le ciel s'est ouvert sur un homme qui était en prière et des hauteurs célestes, une voix s'est fait entendre, celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc il y a eu une manifestation du fils sur la terre, qui était désigné comme fils, et on a entendu la voix du Père, qui le désignait comme étant réellement au milieu de toutes ces foules qui venaient se faire baptiser au Jourdain en reconnaissant leur péché, eh bien, Dieu l'a distingué. Et en même temps, qu'est-ce qui est descendu sur lui ? L'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Donc, la Trinité tout entière s'est manifestée comme elle s'est manifestée aussi dans la création. Elle s'est manifestée au jour qui commençait la rédemption, car c'était le Rédempteur qui venait pour racheter l'humanité coupable, puisque la loi avait fait son œuvre, la loi avait convaincu les hommes de péché, ils reconnaissaient qu'ils étaient pécheurs, ils le confessaient en descendant dans les eaux du Jourdain. Donc, l'heure était venue. Et quand Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, a vu cet événement, qu'il a vu le Saint-Esprit descendre sur Jésus, qu'a-t-il dit ? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà le témoignage que Jean-Baptiste a rendu à cet homme sur lequel il avait vu le Saint-Esprit descendre. Donc, il y a quelqu'un qui peut ôter le péché du monde. Nous avons vu que c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde. Mais nous allons voir maintenant que c'est par un seul homme que le péché est ôté du monde. Et si par un seul homme, si vous l'avez lu dans le chapitre 5 de l'Épître aux Romains, la mort a passé à tous les hommes par la justice d'un seul, la vie et la justice peuvent être données à tous les hommes. Vous ne trouvez pas que c'est fantastique? Quand vous avez hurlé pendant je ne sais combien d'années que vous n'êtes pas responsable d'être né pécheur, que c'est la faute d'Adam, etc., que vous n'auriez pas fait ce qu'Adam a fait, nous n'avons pas tous ratifié ce qu'Adam, d'une manière ou d'une autre. Parce que ce n'est pas d'une pomme qu'il est question. Hein. Moi, je ne connais pas votre genre de pomme, mais en tout cas, nous avons tous transgressé, d'une manière ou d'une autre, le commandement de Dieu. Alors nous sommes donc coupables. Tout. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, mais maintenant par un seul. La justice divine est entrée dans le monde. Dieu a pris la responsabilité du péché, et comme il est Dieu, il a dit, ben moi, je ferai la réparation. Mais comme Dieu ne peut pas passer l'éponge sur le péché, il fallait que le péché soit expié. Il fallait que la justice de la loi soit satisfaite. La loi réclamait quoi? La condamnation du pécheur. Si vous êtes sous la loi, vous êtes des gens condamnés. De sorte que il faut que la sentence soit exécutée. Si elle est exécutée sur vous, vous êtes perdu. Mais Dieu, dans sa grâce, est venu lui-même en Jésus. Et il a pris sur lui, en père qu'il est, la faute de ses créatures, et il a expié lui-même la faute pour nous enseigner l'horreur du mal, l'horreur du péché. Lui-même a payé la dette en son fils. Et alors, si Jean-Baptiste a dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qu'est-ce qu'il a annoncé déjà? En disant qu'il allait l'ôter du monde, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'ôter du monde? Il faut mourir. Il a annoncé déjà sa mort. Pour ôter du monde, il faut quitter le monde, il faut mourir. Alors Jean-Baptiste a déjà annoncé la mort du Seigneur. Mais pour le peuple qui entourait Jean-Baptiste, eh bien, qu'est-ce qu'on disait de cet homme? On disait, c'est Jésus de Nazareth. Voilà le nom que le peuple donnait. C'est Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Était-il vraiment le fils de Joseph? Il était le fils de Dieu. Joseph était le mari de Marie, c'est vrai, mais Marie n'a pas conçu de Joseph. Marie a conçu du Saint-Esprit. Expliquez-moi ça. Non, je ne vous l'explique pas. J'adore. Hein? Nous adorons. Mais nous le croyons encore. Nous le croyons encore. Et alors, cet homme qu'on appelait le fils de Joseph, Jésus de Nazareth, il est allé à Jérusalem. Et quelque temps plus tard, une certaine nuit, à Jérusalem, Jésus, à l'issue d'un entretien avec un théologien juif, a dit ceci. Chapitre 3 de l'évangile de Jean. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Chapitre 3, verset 15 et 16. Car Dieu, ajoutait Jésus, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, cet événement a eu lieu. Le Fils de Dieu, à l'image duquel nous avions été créés, a été manifesté dans un corps de chair. Dans tout l'éclat de sa gloire, puisque nous ne sommes pas même capables de fixer le soleil, comment voudriez-vous contempler celui qui a fait le soleil? Ce serait la mort pour tous. Alors, il a voilé sa gloire sous ce corps de chair, un corps de chair semblable au nôtre, mais sans péché. Mais, et qui allait connaître dans sa chair toutes les conséquences du péché, c'est-à-dire les souffrances qu'ont occasionné le péché à l'homme. Il était sans péché, mais comme homme, il allait connaître toutes les conséquences du péché en sa chair, chair qu'il avait revêtue essentiellement pour mourir. S'il n'avait pas eu un corps, il n'aurait pas pu mourir. Il fallait qu'il ait un corps. Et c'est ce qu'il est dit dans l'Écriture, « Tu n'as pas voulu d'offrande ni de sacrifice, ni d'holocauste, mais tu m'as formé un corps. » Et c'est pourquoi nous aimons tant l'Eucharistie, le repas du Seigneur, où nous nous rappelons ce corps de Christ qui a été donné pour nous. Il a fallu qu'il prenne un corps. Et dans la Sainte Cène, nous rappelons la mort de Jésus. Parce que ce n'est pas par la vie de Jésus que nous avons été rachetés. Comprenez-le bien. C'est par sa mort. Jésus, dans sa vie, a donné un exemple. Mais vous n'aurez jamais la vie de Dieu si vous essayez d'imiter Jésus. C'est impossible. Essayez d'imiter Jésus par vos forces charnelles, c'est l'échec. Et vous finirez dans le désespoir. C'est le chemin du suicide. Prendre simplement Jésus comme modèle de vie, puis dire, eh bien, ce qu'il a fait, moi, je vais essayer aussi de le faire. Ça n'ira pas. Parce que lui, il était sans péché. Mais nous, nous avons le péché en nous. Et notre chair faible, lui, il avait une chair semblable à celle du péché, mais il était sans péché. Alors, nous avons cette tendance qui cède aux tentations. Nous avons cette nature d'Adam et nous ne pouvons pas la changer. La conversion ne change pas votre nature. On a pris l'exemple, par exemple, d'une poule. Je sais pas, au Canada, je ne sais plus si ça se voit encore, une couvée. Hein. Mais quand j'étais petit encore, dans notre Suisse, on avait chez mon grand-père des poules, et puis à un certain moment, on mettait des œufs sous la poule, hein. Puis elle couvait. Alors on a raconté que quelqu'un avait détruit la moitié des œufs. Mais pour que la poule ne voie rien, on a mis des œufs de canard à la place, sous la poule. Elle a continué, mais et quand les œufs sont éclos, qu'est-ce qu'il y a eu? Des canards et des poussins. Alors, bon, la pauvre bonne mère, elle s'est occupée de tout le monde, tous ces petits êtres. Mais voilà qu'un jour, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait une mare, par là, les canards. Les petits canards se sont précipités, la poule a commencé à glousser, à courir pour les empêcher. Elle n'a pas pu, les canards. Ils étaient appelés par l'eau. Hein? Vous comprenez? C'était leur nature, ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais la poule, elle était poule. Alors, les poussins qui étaient poussins sont restés sous ses ailes. Je ne vous dis pas qu'une fois que les canards se sont bien baignés, qu'elle ne les a pas repris sous ses ailes, c'est pas ça. Mais enfin, ils n'avaient pas la même nature. Et vous ne pouvez pas changer la nature. La nature est la nature. On a cette nature. Est-ce que vous êtes pousseux, est-ce que vous êtes canard? Ça suffit. Et c'est un petit exemple que l'on prend, mais pour montrer que c'est cette nature. Vous ne pouvez pas faire cela. Vous ne pouvez pas demander à un canard d'être un poussin. Ou à un poussin d'être canard. Il va se noyer. Comprenez bien cela. Nous avons une nature. Et en Adam, cette nature ne change pas. Et quand vous vous convertissez, cette nature est là. Mais qu'est-ce que le Seigneur va nous donner? Une nouvelle nature. Pas une nature améliorée, mais une nouvelle nature qui est semblable à la sienne. Mais alors, est-ce que vous voulez cette nature semblable à la sienne? Alors, je dirais ceci. À la fin du premier siècle de l'ère chrétienne, quand l'apôtre Jean a écrit sa fameuse épître, où vous avez lu certains textes pour répondre à la seconde question, pouvez-vous trouver aujourd'hui quelque chose de plus parfait, de plus excellent que la vie du Christ? Vous avez lu donc cette fameuse épître de Jean, que je vous invite à relire, à méditer, afin de vous en imprégner. C'est le témoignage de l'apôtre qui a vécu le plus longtemps sur la terre après la venue de Jésus. Alors, quand lui, il a écrit, lui qui avait été d'abord disciple de Jean-Baptiste et témoin oculaire de ce baptême, il avait vu ce qui s'était passé, le ciel s'ouvrir, la voix qui disait « Tu es mon fils », et puis la colombe qui descendait sur lui, et qui, tout le temps de ces 3 années qu'il a passé avec Jésus, était le plus intime des apôtres du maître de Galilée, eh bien, quand il a écrit son épître, il y avait de nombreux groupements religieux, déjà au premier siècle, qui existaient côte à côte, et chacun avait sa propre spiritualité, comme aujourd'hui vous avez un tas de mouvements religieux. Chacun a sa spiritualité. C'était déjà comme ça au premier siècle. Et puis, il y en avait qui prétendaient avoir des nouvelles lumières, des vues beaucoup plus claires que les autres. On appelait ça la gnose, la connaissance. Ils se croyaient des initiés, comme aujourd'hui on vous parle toujours d'initiés. Et on prétendait déjà au premier siècle, à la fin du premier siècle, que le christianisme était très bon comme chose élémentaire, mais qu'il avait vieilli, et qu'il y avait maintenant des lumières nouvelles qui dépassaient de beaucoup le crépuscule de la vérité. Voilà ce qu'on pensait à la fin du premier siècle. Combien plus à la fin du 20e siècle, hein. Et au début, à l'aurore du 21e siècle, on nous dit, mais le christianisme, on parle même de feu la chrétienté. Hein. C'est déjà passé la chrétienté. On attend la religion nouvelle. La religion de l'homme, devenue, grâce à la technique, grâce à la science, Dieu. Parce que l'homme est toujours dans cette course. Dans cette course effroyable, dans le chemin où Adam a commencé le chemin de la connaissance du bien et du mal. Et il est tellement engagé dans ce chemin-là qu'il ne contrôle plus rien. Puis on voudrait mettre un super contrôle, un contrôle mondial sur toute cette sagesse de l'homme qui risque de le conduire au suicide, qui risque de conduire l'humanité à sa fin. Parce qu'on a peur, la peur est dans tous les... Et dans le monde entier, les Russes ont peur des Américains, les Américains ont peur des Russes, on vous parle de la guerre des étoiles, tout ce que vous voulez. On voudrait un contrôle de la science. parce que l'homme est devenu un apprenti sorcier et il pourrait faire tout sauter. Voilà ce que l'on pense. Parce que l'homme ne contrôle plus ses connaissances. Et dès qu'il y a une découverte qui pourrait être employée pour le bien de l'humanité, parce que l'homme est la race de Dieu, hein, et s'il découvre certaines choses, c'est quand même parce qu'il est la race de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Mais immédiatement, l'homme se glorifie de ce qu'il a trouvé. Et au lieu d'appliquer cela pour quelque chose de bien pour l'humanité, qu'est-ce qu'il en fait? Il en fait un moyen de destruction. Il en fait un moyen de destruction. La dynamite, par exemple, elle pouvait être utile aux travailleurs, hein, mais qu'est-ce qu'on en fait? On l'emploie maintenant pour tous les attentats possibles, pour faire sauter les gens. C'est vrai ou c'est faux? Raisonnez un peu, lisez, oh non, ne lisez plus les journaux, lisez la parole. Vous aurez là les dernières nouvelles. Et vous serez aussi rassurés. Parce qu'il est dit que ces choses devaient arriver. Alors, on est averti. Hein? On est averti. Ces choses devaient arriver. Donc, c'est pas, il n'y a rien d'imprévu là-dessus. Mais nous, il nous faut rester dans la paix. Nous devons avoir un témoignage. Mais vous voyez, aujourd'hui, à l'aurore du XXe siècle, pour beaucoup, bien maintenant, la religion chrétienne, ben, elle a fait son temps. Le monde lui-même est à l'âge adulte et il doit finir avec le passé pour entrer dans cette sphère nouvelle qu'ouvre devant nous la science et la technologie. Alors, comment l'apôtre réagissait-il en son temps, au début du premier siècle, pour dissiper ses orgueilleuses prétentions, toutes ces exaltations de l'esprit humain que l'ennemi employait pour plonger de nouveau l'esprit des hommes dans les ténèbres d'où elle venait de sortir, cette humanité. Bien, vous avez lu la première épître de Jean? L'argument de Jean? Il ramenait tout le monde à ce qui était dès le commencement. Il commence son épître en disant ce qui était dès le commencement. Dès le commencement du christianisme, parce qu'il y a plusieurs commencements dans l'écriture, hein. Il y a le commencement, le tout premier, c'est dans l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Le deuxième commencement, il est dans la Genèse. Hein. Ce n'est pas le premier commencement, la Genèse. Hein. Le premier commencement, c'est avant la création, il y avait Dieu, qui n'a jamais commencé. Hein. Qui est éternel. Mais à un moment donné, il a créé les cieux et la terre. Ça, c'est la deuxième fois qu'on trouve un commencement. Hein. Commencement des cieux et de la terre, ce n'est pas le commencement. Le premier, c'est celui de la Genèse. Ensuite, vous avez celui-là. Et puis après, au commencement était la parole. C'est ce commencement de la manifestation de la vie de Jésus sur la terre. Comme vous l'avez dans l'évangile qu'a écrit Marc, qu'on croit être le secrétaire de l'apôtre Pierre, puisqu'il semble bien que Marc nous donne la doctrine que Pierre prêchait. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Voilà comment commence l'évangile de Marc. Alors, le commencement de la manifestation de la vie de Jésus-Christ, eh bien, l'apôtre Jean nous en parle. Ce qui était dès le commencement, ce qui était dès le commencement de l'évangile, ce que nos yeux ont vu, là, au commencement, qu'est-ce qu'ils ont vu au commencement? Il était lui, parce qu'il était un apôtre. Et pour être apôtre, il fallait avoir été là, au commencement. À ce commencement-là, qui était le baptême de Jésus, où il avait été désigné comme étant le Fils unique qui faisait les délices du Père. Alors, Jean ramène au commencement, il ramène à qui? À une personne, à la personne du Christ. Ce ce qu'il avait entendu, ce qu'il avait vu de ses yeux, ce qu'il avait contemplé, ce que ses mains avaient touché, concernant quoi ? La parole de la vie, de cette vie que nous recherchons. Et il dit, la vie de Dieu, cette vie, elle a été manifestée et nous l'avons vue, où ? Sur la terre. Nous l'avons vue, nous l'avons entendue et nous l'avons touchée. Nous l'avons contemplée. On pourrait méditer des heures et des heures sur ces quelques mots qui nous révèlent au fond l'extase de Jean quand il pense à ces moments où il avait vu le Seigneur au bord du Jourdain et après dans toute sa vie, où il avait eu le privilège d'entendre cette parole de vie. Donc, il nous ramène là au commencement. Et nous, nous cherchons, mais est-ce qu'il y a une vie autre que celle que Jean nous a présentée, qui vaille la peine d'être vécue? Je vous le demande. Vous savez que c'est la vie du Christ. Vous êtes tous des chrétiens. Alors, qui est Jésus-Christ? Je sais que vous êtes tous informés. Hein. Je n'ai pas la prétention de vous annoncer des choses nouvelles. Vous avez des informations sur Jésus-Christ. Mais savoir des choses sur Jésus-Christ, c'est pas le connaître. Vous comprenez? Dans le vrai sens du mot connaître, qui veut dire pénétrer, littéralement. Connaître, c'est pénétrer, au sens biblique du terme. Est-ce que vous avez pénétré dans cette vie de Jésus? Et est-ce que Jésus a pénétré en vous? Je peux très bien dire que je connais certaines choses, j'ai du savoir. Vous voyez, Nicodème, hein, c'était un savant théologien, il aborde Jésus en disant, nous savons. Hein. Les premiers mots de Nicodème, c'est fantastique. Hein. Il vient à Jésus de nuit, parce que il a peur quand même pour sa réputation, lui qui est un grand docteur à Jérusalem, qui va consulter un petit rabbi de Galilée qui n'a pas été aux études, vous rendez-vous compte ce que c'est? Mais il a quand même vu, il a vu des choses faites par Jésus, et alors il lui dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, il met toute sa sagesse en avant, nous savons. Après, j'ai plus rien. Quand vous venez avec vos connaissances vers Jésus, vous allez être drôlement humilié. Commence à poser des questions. Comment cela peut-il se faire? Il ne sait plus. Quand on vient en disant nous savons, ça ne veut pas dire que vous connaissez grand chose. D'abord, les gens qui savent, ils ne s'en vantent pas. Plus on sait de choses, moins on a de prétention. Parce qu'on s'est rendu compte de tout ce qu'on ignore encore. C'est vrai ou c'est faux? Plus quelqu'un est avancé en connaissance, plus je dis, mais je suis devant un tas de mystères encore. Il y a encore un tas de choses qui doivent me révéler. C'est pour ça que ça vaut la peine de vivre, hein. Parce qu'il y a encore des choses que vous devez saisir, que vous devez comprendre. Alors acceptez de vous laisser enseigner. Pauvre Nicodème, comment cela peut-il se faire? Comment un homme peut-il renaître quand il est vieux, etc. Et c'est plus du tout. Alors vous, qu'est-ce que vous savez de Jésus-Christ? Que savez-vous de son origine? Si vous croyez la parole, est-ce que le commencement de Jésus était à la crèche? Non. Il était de toute éternité. Il n'est pas né. De la chair, il est venu en chair. Il est venu en chair. Nous, on ne dit pas qu'on est venu en chair. Ça voudrait dire qu'on préexistait, lui préexistait. Il est venu en chair. Donc, il existait avant sa naissance. Ça, c'est pour Jésus. Mais il est né de la chair. Il est né, oui. Son corps de chair a été formé dans le sein d'une femme de Marie. Alors, vous savez quelque chose de son origine, si vous croyez l'Écriture. Donc, c'est vraiment celui qui a créé toutes choses, qui était avec le Père, et le Saint-Esprit, un dans cette unité merveilleuse, unité de la divinité, mais qui se manifeste en trois personnes. Il était là au commencement, toutes choses ont été faites par le Verbe, qui est la parole, et le Fils était la parole, qui accomplissait toute la volonté du Père. Alors vous connaissez quelque chose de son origine. Mais maintenant, qu'est-ce que vous connaissez de sa naissance? Ben vous me direz, bon, on célèbre Noël chaque année. C'est ça sa naissance? C'est tout ce que vous savez de sa naissance, Noël? La crèche? Ce que nous savons de sa naissance, si nous y croyons, c'est que jamais homme n'est né comme cet homme. La naissance, c'est une naissance miraculeuse, conçue du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Ça, c'est le credo. Vous récitez ça. Un tas de gens récitent ça. Vous croyez qu'ils y croient? Vous pensez qu'ils y croient? C'est le moulin à prière. On récite le credo. On admet cela. Mais ça n'a pas d'influence. Parce que si c'est vrai, ça devrait nous arrêter. Alors, oui, nous croyons qu'il est né d'une vierge. On parle de la Vierge Marie encore. Puis maintenant, quel a été son caractère? Quel caractère avait-il? Vous avez encore en mémoire votre catéchisme. On vous enseigne quand même des choses au sujet du caractère de Jésus-Christ. On vous l'a présenté comme étant doux et humble de cœur. Vous connaissez l'évangile. Quelles furent ses paroles? Mais ses paroles, il disait, les paroles que moi je vous dis sont esprit et sont vie. C'est pas simplement un littéralisme qu'il vous faut. C'est comprendre que ces paroles doivent vous pénétrer, qu'elles ne doivent pas rester dans les évangiles, mais qu'elles doivent se fixer en vous. Les paroles que je vous dis sont esprit et sont vie. Il ne faut pas matérialiser les paroles de Jésus. Quand il dit « Je suis la porte », est-ce que vous dites que Jésus est une porte? Je suis la porte, je suis l'issue. Qu'est-ce que c'est qu'une porte? C'est une issue. Quand il disait de vous, vous êtes le sel de la terre. Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes du sel? J'espère bien pas des statues de sel. Comme la femme de Lot, qui est devenue une statue de sel. Mais quand il dit, vous êtes le sel de la terre, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait le sel? Il donne le goût aux aliments. C'est à vous qui vous réclamez de Jésus de donner le goût des choses de Dieu au monde. Les choses de Dieu, pour le monde, elles sont fades. Qu'est-ce qui les rendra succulentes? C'est votre vie. Si là où vous êtes le sel de la terre, hein, vous donnerez le goût des choses de Dieu. Ce n'est pas par vos paroles, d'abord, mais c'est par votre vie. Et voyez-vous, pour moi, l'évangélisation du monde, elle ne vient pas par des grandes manifestations. Qu'il y en ait, c'est l'affaire de certains qui se sont peut-être appelés à cela. Mais je crois que la véritable évangélisation à la portée de tous, c'est que tous ceux qui se réclament du Christ soient vraiment ce qu'ils doivent être là où ils sont. Dans leur foyer, dans leur maison, auprès de leurs enfants et dans leur vie sociale. Mais alors ils auront à souffrir. Ça, vous n'y échapperez pas. Si vous voulez être, et je ne dis pas témoin en parole, parce qu'ils en ont assez de vos paroles. On a trop jasé du Seigneur. Aussi bien dans nos églises, on jase du Seigneur que dans notre témoignage. On va jaser du Seigneur auprès d'âmes qui en ont marre de nous entendre jaser, mais voudraient voir la réalité dans nos vies. Et peut-être qu'alors elle nous questionnerait. Puis quand elle nous questionnerait, une bonne question, on commencerait de descendre un petit peu et d'être un peu plus humble, puis dire comment est-ce que je dois lui répondre. C'est pas drôle de répondre à quelqu'un qui vous pose une vraie question. Mais de la noyer dans notre théorie, c'est tellement facile.
On nous a fait un lavage de cerveau, on nous a endoctrinés sur tel thème, et puis alors on y va avec nos petites doctrines, puis on essaye d'endoctriner les autres pour les amener dans notre groupe.
C'est pas ça le christianisme.
C'est avoir une vie qui frappe. Et il n'y a qu'une vie qui frappe, c'est la vie de Jésus. Le sel, vous êtes le sel de la terre, vous donnez le goût des choses de Dieu. Et puis en même temps, le sel, ça préserve de quoi? De la corruption. Là où il y a un vrai chrétien, il y a comme une barrière. Quand il y a un vrai chrétien dans un groupe, il y a des gens qui sont gênés. Ils n'osent plus dire leur grossièreté. Non, à cause du chrétien. Mais sans ça, quand les hommes sont ensemble, de quoi parlent-ils? Le déclin de l'Empire américain. Les hommes ensemble, les femmes ensemble. Vous savez de quoi ils parlent? Même au bord du lac Memphremagog, où nous faisons notre rap. Et pourtant, c'est ça qui a du succès. Mais on sait bien de quoi les hommes parlent quand ils sont ensemble, la majorité. De quoi les femmes parlent quand elles sont ensemble, là. Pas toutes les femmes. Mais il faut que nous puissions nous ressaisir. Nous avons besoin de nous laisser corriger par la parole. Vous êtes le sel de la terre. Alors comprenez bien que les paroles de Jésus sont esprit et sont vie. Je suis la porte, je suis le chemin. C'est pas un chemin goudronné, hein. C'est pas ça. C'est la voie. Quand il dit je suis le cep et vous êtes le sarment, bien vous comprenez que ça veut dire que le sarment, il n'a pas la vie en lui-même, mais il reçoit la vie du cep. C'est pas le sarment qui produit du fruit de lui-même. Si le sarment est coupé, le sarment laissé à lui-même, qu'est-ce qu'il est? Il est bon pour être brûlé, ça fait un fagot. Mais s'il est dans le cep, alors il portera du fruit, beaucoup de fruits, plus de fruits, et le jardinier l'émondera, justement, il coupera les branches gourmandes pour qu'il y ait un fruit meilleur et du fruit qui demeure. Le Seigneur a employé beaucoup d'images. Alors, quand j'entends les paroles de Jésus, je m'écris comme les huissiers du temple qui étaient venus pour l'arrêter, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'est né comme cet homme, jamais homme n'a eu un caractère comme lui, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et quant à ses œuvres, vous les connaissez aussi, les œuvres du Seigneur, vous avez lu les évangiles. Dans ce monde de souffrance, il guérissait, pas tous les malades, mais beaucoup de malades, il les a guéris, montrant sa sympathie, montrant que ce n'était pas la voix de Dieu que les hommes souffrent, ce n'était pas ce que Dieu voulait. Alors il a porté nos infirmités, et il a même ressuscité des morts. Mais évidemment pas d'une façon définitive, puisqu'ils sont morts à nouveau. Mais il a manifesté cette pleine humanité. Il ne tuait pas, il ressuscitait, lui. Il guérissait. Et alors, finalement, qu'est-ce que les hommes ont fait de cette vie? Là, au bord du lac de Galilée, parce qu'il avait guéri un démoniaque, qu'on l'avait lié de chaînes, qui était un danger public. On n'osait plus passer par là. Et voilà que Jésus passe, puis il le guérit. Il le libère. Mais qu'est-ce qui arrive? Les 2000 démons qui étaient en lui sont allés dans où? Dans les 2000 cochons qu'il y avait là. Et vous savez que les Juifs ne devaient pas manger du porc. Peut-être qu'ils n'en mangeaient pas, mais ils les élevaient, puis ils les vendaient aux autres. Hein? Alors pourquoi est-ce que Jésus a permis qu'ils aillent dans les pourceaux? Ton péché te trouvera. Il y a eu une perte. Mais alors qu'est-ce qu'ils ont manifesté, ces gens-là? Ils avaient pourtant tant de malades, tant de miséreux, qu'ils auraient pu amener à Jésus. Ils oublient la guérison du démoniaque, ils le voient bien guéri, mais ils ne pensent qu'aux 2000 pourceaux qui sont allés dans la mer. Et ils montrent bien ce qu'ils sont, ils préfèrent les cochons au Seigneur. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Une multitude de gens préfèrent leur pourceau au Seigneur. C'est vrai ou c'est faux? Et on demande à Jésus de s'en aller de ce territoire. Et alors tout de suite, l'homme qui a été guéri, il voudrait partir avec lui, dans sa barque. Jésus lui dit non, va d'abord chez les tiens. Dis-leur ce que j'ai fait pour toi. Quelqu'un m'a demandé, est-ce que vous trouvez que je ferais mieux de quitter mon église pour aller dans une autre, pour mais en progrès spirituel? Bien, je te dirai, mon frère, que tu sois, confesse d'abord ton Seigneur dans ton église, dans ton milieu. Ne pense pas que, oh, si tu vas dans une autre barque, il faudrait encore que ce soit vraiment la barque du Seigneur. Hein. Parce que c'est peut-être la barque d'une autre église. Alors, vous savez, hein, il faut que ce soit vraiment le Seigneur qui soit dans la barque. Mais confesse d'abord le nom du Seigneur vers les tiens. Puis si on te rejette, le Seigneur s'occupera de toi. Mais tu auras préparé son retour, car le démoniaque est allé publier partout ce que le Seigneur avait fait pour lui. Et quand Jésus est revenu plus tard, ils ont dit, il le reconnut. Et alors à ce moment-là, on lui a amené tous les malades. Le témoignage de cet homme qui est resté là dans son milieu, là où il était, a été tel qu'il y a eu une transformation. Et on s'est dit, mais est-ce qu'on a été insensé de chasser le Seigneur? Et il a préparé le retour. Alors voilà. Je ne vous dis pas rester, mais je vous dis ayez affaire avec le Seigneur. Si on vous exclut, si on vous chasse, si on violente votre conscience, ça sera une autre affaire. Le Seigneur vous retrouvera dehors, et c'est lui qui vous conduira. Mais ne pensez pas que c'est simplement en changeant de milieu que vous serez satisfait. Je l'ai raconté, je crois, une fois, je ne sais pas si c'était ici, mais l'année passée, à Aix-en-Provence, j'ai rencontré un homme qui était pasteur maintenant, qui m'a dit, vous savez, il y a 25 ans à Grenoble, vous m'avez dit, j'étais étudiant, et je vous ai demandé, qu'est-ce que vous pensez que je devrais faire? Est-ce que je devrais aller chez les pentecôtistes ou bien chez les frères chrétiens, etc. Puis vous m'avez répondu, si vous attendez d'aller dans une église parfaite, dès l'instant où vous y serez, elle ne sera plus parfaite. Je m'en suis toujours souvenu, il m'a dit. Hein? Ben c'est vrai. Vous cherchez une église parfaite? Mais si vous y êtes, elle sera plus parfaite, parce que vous y apporterez vos infirmités. Alors, recherchez le Seigneur et témoignez du Seigneur, apportez la vie du Seigneur, apportez non pas vos idées aux gens, mais sa personne. Et vous savez, on la reconnaît, sa personne. Et alors, il y a unité, il y a vraiment un contact. On n'a pas besoin d'être exactement du même groupe. Mais quand on a une conversation centrée sur la personne du Seigneur, les cœurs se réchauffent et on se sent proches les uns des autres. C'est lui qui nous unit. Alors, vous sentez-vous concerné par sa mort? Vous sentez-vous concerné par sa mort? Les hommes ont manifesté que là, celui qui était à la gloire de Dieu, qui trois fois dans l'évangile a reçu l'approbation de Dieu au Jourdain, sur la montagne de la Transfiguration, c'est mon fils élu, écoutez-le. Puis, la semaine où il a été livré, une voix a retenti à nouveau comme un coup de tonnerre. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Eh bien, malgré ce témoignage divin, qu'est-ce qu'on a fait de lui? On s'en a débarrassé. Et quels sont les péchés qui ont provoqué au fond la mort du Seigneur? Ce sont tous nos péchés, mais il y en a quatre en particulier que j'aime souvent à souligner parce qu'ils sont dans l'Évangile. On l'avait livré par envie, la jalousie. Et vous savez, la jalousie, ça fait des dégâts terribles, même dans l'église de Dieu. Entre frères, est-ce qu'il y en a qui sont jaloux les uns des autres? La jalousie, c'est un péché qui a conduit le Christ à la croix. L'envie des pharisiens, des gens religieux qui ne pouvaient pas supporter le Seigneur. Parce qu'il avait du succès, parce que sa parole, il prêchait autrement qu'eux. Ce qu'il vivait, ce qu'il disait, il le vivait. Son enseignement, c'était sa vie, c'était son l'enseignement. Alors qu'il prêchait, mais il ne vivait pas ce qu'il disait. Alors on l'a livré par Henri. C'était un gêneur. Et ce sont des gens religieux qui l'ont livré. Et Pilate savait qu'il l'avait livré par Henri. Puis alors, pour avoir une condamnation, qu'est-ce qu'il fallait qu'on entende encore de lui? Ils firent venir des faux témoins. Des faux témoins. Et on a pris une parole qu'on a sortie de son contexte. Jésus avait dit un jour, détruisez ce temple, et moi, en 3 jours, je bâtirai. On l'a pris pour un plastiqueur avant la lettre. Il va faire un attentat, il va détruire notre temple. Alors qu'il parlait du temple de son corps. Alors on a amené des gens qui avaient entendu, oui, il a dit cela, alors sur 2 témoins, ben, le témoignage est là. Et c'était un faux témoignage. Les faux témoignages, ce qu'on raconte les uns sur les autres, que de faux témoignages qui ruinent la vie de l'Église. Puis un troisième péché, Judas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé trouver les gens. Quand il a vu que ça se gâtait pour Jésus, il avait tout quitté. Il fallait qu'il ait une situation. Bon, pourquoi est-ce que je ne le vendrais pas? Puis s'il est Dieu, s'il est le Fils de Dieu, ben, il va quand même s'en sortir. Il s'est sorti de tous les autres attentats. Alors que me donnerez-vous? L'avarice. Parce que Judas aimait l'argent et qu'il ne s'était jamais jugé de ces tendances qu'il avait. Et ce qui nous coule, mes amis, c'est cet amour de l'argent. Si vous êtes devenu un enfant de Dieu, et nous le verrons ce soir, avec cette nouvelle nature, eh bien, vous avez besoin encore d'argent, mais vous ne courrez plus après cet argent. Le Seigneur, s'il vous en donne, vous pourrez en disposer. Le Seigneur ne permettra pas que vous soyez démunis, mais il vous donnera peut-être la joie aussi de pouvoir donner. Avec ce que vous avez, vous deviendrez l'administrateur de Dieu, avec les biens qu'il vous donne. C'est tout autre chose que le communisme. Parce que si vous appliquez, soi-disant, cette doctrine, il faut faire le partage de tout, demain il y aura de nouveau des pauvres. C'est vrai? On partage tout, il y en a qui auront tout dépensé demain, ils seront nouveaux. C'est l'homme, le cœur de l'homme qui doit changer. C'est la direction de votre vie qui doit changer. Pour qu'il y ait une amélioration sociale, sans ça tout le reste, c'est de la frime. Ce sont des faux remèdes. Alors, l'amour de l'argent, son péché l'a trouvé. Que me donnerez-vous? Et lui faisait 30 pièces d'argent. Ça lui a valu quelque chose? Pas même, il n'a pas même pu s'acheter la corde. Ce qu'il a rendu l'argent. C'est après, il est allé se pendre. Le salaire du péché, c'est la mort. On ne joue pas avec le Seigneur. Et puis, le quatrième péché, qu'est-ce qui aurait pu délivrer Jésus, humainement? Il était devant qui, le juge? Qui lui dit, j'ai le pouvoir de te délivrer, j'ai le pouvoir de te condamner? C'est qui? C'est Pilate. Et Jésus lui dit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'était donné d'en haut. Et Pilate, sachant qu'il était innocent, mais quand il a entendu, il s'est fait roi. Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de César. Oh, ce nom de César, parce que Pilate est sous la direction de César. Il a peur pour lui, pour sa réputation. Et par crainte des hommes, il livre un innocent pour qu'il soit crucifié. Parce que c'est sa situation qui est en jeu. Et vous connaissez dans l'Église aussi tant de gens. À cause de leur situation, parce que leur situation est en jeu, ils ne vivent pas ce qu'ils doivent vivre. On fait un compromis. Les péchés qui ont, on peut les résumer là en 4, qui ont amené Jésus à la croix, vous les avez toujours, à la fin du 20e siècle. Et ils crucifient le Seigneur aux yeux du monde. Alors, oui, je me sens concerné par cette mort. Mais je sais que quand il est mort, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y avait pardon pour tous. Et il mourait. Et nous verrons le sens de sa mort ce soir. Alors, chers amis, est-ce que vous vous sentez concernés par sa résurrection? Parce qu'il n'est pas resté dans la mort. il est ressuscité. Mais si vous croyez qu'il est ressuscité, est-ce que vous vous sentez concerné par ses exigences? Qu'est-ce qu'il demandait de ses disciples? Même une fois ressuscité, qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Toi, suis-moi. Il vous demande de le suivre. Qu'est-ce que vous pensez de ses exigences? Est-ce que vous le suivez? Est-ce que vous voulez le suivre? Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. L'exigence du Seigneur, c'est de le suivre. Alors, mes amis, je résume tout cela maintenant. Parce que c'est vrai qu'il est mon sauveur. Parce que c'est vrai qu'il est mon Seigneur. Parce que c'est vrai qu'il est devenu mon bien-aimé. Parce que je souhaite de tout mon cœur que vous n'ayez plus, seulement le Sauveur qui vous a racheté au prix de sa vie, mais qu'il soit devenu votre Seigneur, celui qui dirige votre vie, qui vous a pris en main. Et puis, tout ce que je désire, c'est que vraiment les affections de votre cœur lui soient données. Que vous n'ayez pas adhéré intellectuellement à l'idée du christianisme, mais à la personne de Jésus. Car c'est lui qui est le Sauveur. Jésus, le Sauveur. Jésus, le si grand salut de Dieu. Et alors, maintenant qu'il est ressuscité, donc il a une vie qui a triomphé de la mort, sa vie, elle est où? Elle est auprès du Père. Et s'il est réellement ma vie, si j'ai accepté qu'il soit ma vie, sa vie à lui devient réellement la mienne. Alors, quand je vois son obéissance, je sais comment j'ai à obéir. Lui a dit, je viens au Dieu pour faire ta volonté. Et il a dit, ma tâche pénible, c'est de faire la volonté de Dieu tous les jours de ma vie. Ma nourriture, ma force, c'est de faire la volonté de Dieu. C'était sa joie, c'était sa santé, c'était sa force. Alors, je vois cette obéissance. Et j'ai le droit de dire, puisqu'il est ma vie, c'est cela mon obéissance. Il est possible que cette vie que je vois dans la gloire soit obscurci en moi, hein, parce que je suis dans le monde, il y a des voiles, mais elle n'est pas moins ma vie, même si elle est obscurcie. Je sais qu'elle est ma vie, et que mon obéissance doit être à la mesure de son obéissance. Parce que si je regarde simplement l'obéissance des hommes, puis je veux obéir comme les hommes ont obéi, je coule. Hein. L'étalon qui sert vraiment de mesure pour nous, c'est Jésus. Je ne dis pas que j'obéis comme il obéit, mais mon obéissance, c'est la sienne. C'est cela. Et si je laisse le Saint-Esprit agir, il m'amènera à cela. Je ne dis pas que j'y suis arrivé, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui agit pour que j'obéisse. Et que je suis dans le chemin de l'obéissance, et que c'est dans le chemin de l'obéissance que je suis vraiment un homme heureux. Parce que quand je désobéis, je suis malheureux. Quand je vois la pureté de Jésus, sa pureté, voilà, c'est ma pureté. Je ne vous dis pas que je suis pur dans cette mesure-là, mais je sais très bien qu'il avait raison quand il montrait ce qu'il y avait dans mon cœur. J'ai admis que tout ce qui était dans mon cœur, les mauvaises pensées, tout cela, eh bien, c'était dramatique et cela me perdait. Alors, j'ai renoncé à moi. Je sais que mon cœur ne s'améliorera pas. Dieu ne m'a pas donné un cœur amélioré. Il me donne un cœur nouveau. Et un cœur qui aime les choses que lui aime. C'est pas un cœur amélioré. Si vous regardez votre cœur, il est toujours le même. Il est toujours capable de penser les mêmes choses. Alors, n'essayez pas de regarder en vous si vous avez changé. Mais regardez toujours la vie de Jésus. Sa pureté est votre pureté. sa grâce est votre grâce. Regardez la grâce de Jésus. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, dit saint Paul. Comment, étant riche, il a vécu dans la pauvreté, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Et voilà, la grâce du Seigneur. Même s'il faut vivre dans la pauvreté, mais une pauvreté qui ne nous rend pas pauvres. Parce qu'on est en relation avec celui qui a tous les trésors. Et il sait ses pauvres pour nous enrichir. Regardez sa tendresse. Moi, j'aime beaucoup la tendresse. Je sais qu'il y a des gens qui s'appellent la tendresse maintenant au Québec. Moi, j'aime beaucoup la tendresse de Jésus. Et où est-ce que vous la voyez, la tendresse de Jésus? Quand il prend les petits-enfants dans ses bras. Quelle tendresse. Et puis quand il les appelle, ressuscité, hein, après que Pierre a la